La guérison divine par la foi en Jésus-Christ. Frédéric Francis Bozo Hort. Édition Parole de Vie http://paroledevie.org. Droit d'auteur édition Parole de Vie 1993. Tout droit réservé. Traduction française utilisée avec l'accord des éditions Parole de Vie. Traduit de l'américain et légèrement condensé par Henri Viomura. Titre original Christ Tiller. Première publication en 1924 aux USA. Le lecteur trouvera un aperçu très intéressant de la biographie et de l'œuvre de Frédéric Francis Bozo Hort dans le livre de Robert Thom, édité aux éditions Vida, et intitulé Le vin nouveau et meilleur. Table des matières. Préface. Pour ceux qui ont besoin de guérison. Jésus nous a-t-il racheté de nos maladies? La guérison est-elle pour tous? La compassion du Seigneur. Comment saisir la guérison? La foi vivante. La confession de notre foi. Le chant de Dieu. Pourquoi certains ne sont-ils pas guéris? Les chardes de Paul. Témoignage. Préface de la 7e édition de 1948. En publiant en 1924 la première édition de ce livre, nous n'aurions jamais rêvé que les vérités présentées dans cet ouvrage allaient bénir des foules aussi nombreuses, dans tant de pays du monde. Tout au long de ces années, les fruits portés par ces messages ont été une démonstration de la vérité de cette déclaration inspirée, dans Éphésiens 3:20, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Au cours des 24 années qui suivirent, 5 autres éditions importantes ont été imprimées et lues par des milliers de pasteurs et de chrétiens, qui nous ont écrit pour nous dire à quel point ils avaient été éclairés et bénis, dans leur âme et dans leur corps, par la lecture répétée de ces messages. Nous nous sommes efforcés d'employer un vocabulaire à la portée de tout le monde. Nous avons reçu un flot continuel de témoignages, de la part de ceux qui avaient été convertis et miraculeusement guéris, par la foi qu'ils ont eux-mêmes reçue en lisant et méditant les vérités bibliques que nous avons tenté d'expliquer clairement. Nous avons prouvé des milliers de fois, et nous continuons à le prouver, que la simple présentation de la parole de Dieu écrite, à l'intelligence et au cœur de ceux qui sont affligés de maladies incurables, suffit à les conduire à une pleine assurance, à la fois pour ce qui concerne la guérison de leur corps, et pour ce qui concerne la guérison de leur âme. Nous sommes donc de plus en plus émerveillés d'avoir le privilège de planter la semence incorruptible, la parole de Dieu, dans le cœur de ceux pour lesquels Jésus est mort. Quelle glorieuse réalité, pour chacun de nous, que d'avoir été racheté à grand prix, pour que nous devenions le jardin du Seigneur, dans lequel sa semence impérissable, la parole de Dieu, doit être continuellement plantée, arrosée, et cultivée, pour qu'elle produise ses prodiges présents et éternels. Il y a dans cette semence divine des possibilités que l'intelligence humaine ne peut pas concevoir, de même qu'il y a dans une toute petite semence, à l'état potentiel, un arbre qui est un million de fois plus grand que la semence. Si nous continuons à planter ces semences dans le jardin de Dieu, comme un fermier le fait pour son champ, nous pourrons accomplir, en tant qu'enfants de Dieu, des choses mille fois plus grandes que celles qu'accomplissent les hommes avec leur talent humain, parce que Dieu accomplira ses promesses. Nous avons également découvert que ceux qui avaient pu lire nos messages sur la guérison divine étaient parvenus à en avoir une compréhension beaucoup plus complète que ceux qui avaient eu l'occasion de m'entendre prêcher dans une réunion publique. Lorsque ces messages écrits avaient pu être fréquemment relus et étudiés par ceux pour lesquels nous avons prié par la suite, nous avons eu la preuve qu'ils produisaient de bien meilleurs résultats dans leur âme et leur corps, que dans le cas de personnes qui désiraient que l'on prie pour elles sans qu'elles aient suffisamment entendu la parole de Dieu pour avoir la foi. Nous lançons donc cette 7e édition en priant de tout cœur pour que des milliers d'autres personnes puissent savoir comment saisir les nombreuses bénédictions promises dans la Bible. Nous désirons que chacun de vous imite ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses Hébreux 6:11-12. Miami, Floride, le 5 mai 1948. Frédéric Francis Bozo Hort. Chapitre 1. Pour ceux qui ont besoin de guérison. Avant que l'on puisse avoir une foi ferme pour la guérison de notre corps, nous devons nous débarrasser de toute incertitude concernant la volonté de Dieu dans ce domaine. Une foi vivante ne peut pas aller au-delà de notre connaissance de la volonté révélée de Dieu. Avant de tenter de mettre notre foi en action pour obtenir une guérison, il nous faut connaître ce que les Écritures enseignent à ce sujet, à savoir que c'est tout autant la volonté de Dieu de guérir le corps que de sauver l'âme. Les messages de ce livre expliquent et mettent l'accent sur les passages de l'Écriture qui vous convaincront définitivement de cette vérité. Ce n'est que lorsque vous savez que Dieu promet ce que vous recherchez que toute incertitude peut être enlevée, et qu'une foi ferme devient possible. Chaque promesse de Dieu est une révélation de ce que Dieu est vivement désireux de faire pour nous. Tant que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'avons rien sur quoi appuyer notre foi. Il est important que l'intelligence de ceux qui recherchent la guérison soit renouvelée, afin d'être mise en harmonie avec la pensée de Dieu révélée dans la Bible, telle que nous la présentons dans ces pages. La foi qui nous permet de saisir les bénédictions promises par Dieu nous est donnée lorsque nous connaissons, et agissons, selon la parole de Dieu Romains 10:17. Une attitude mentale correcte, c'est-à-dire une intelligence renouvelée Romains 12:2, nous permet à tous d'avoir une foi ferme. Nous recevons constamment le témoignage de personnes pour lesquelles on avait souvent prié, mais sans succès, et qui ont été merveilleusement guéries en lisant ce livre. De nombreuses personnes se sont également converties en lisant ces messages. Vous seriez étonné si vous pouviez voir le flot continuel de témoignages que nous recevons de tout le pays. Au cours des quelques années passées, nous avons reçu plus de 225 000 lettres écrites par les auditeurs de nos émissions de radio et par leurs amis, que, pour la plupart, nous n'avons jamais connus. La parole est une semence. Jésus dit que la parole est une semence. C'est une semence de la vie divine. Si vous cherchez la guérison, et si vous n'êtes pas convaincu, par la parole de Dieu, que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, c'est comme si vous tentiez d'obtenir une récolte alors qu'aucune semence n'a été plantée. Il serait impossible à un fermier de croire qu'il va obtenir une récolte, tant qu'il n'est pas certain que la semence a bien été plantée. Dieu ne veut pas que l'on obtienne une récolte sans avoir d'abord planté la semence, c'est-à-dire sans que l'on connaisse sa volonté et qu'on agisse selon sa volonté. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». L'affranchissement de la maladie vient quand on a connu la vérité. Dieu ne fait jamais rien en dehors de sa parole. Il envoya sa parole et il est guéri Psaume 107:20. Ce sont des paroles prononcées par le Saint-Esprit. Toutes les œuvres de Dieu sont faites dans la fidélité à ses promesses. Si vous êtes malade, et que vous savez personnellement que c'est la volonté de Dieu de vous guérir, c'est comme si une semence était plantée dans vos pensées et votre cœur. Elle n'est pas plantée tant qu'elle n'est pas connue et reçue dans la foi. Aucun pécheur ne peut devenir chrétien avant d'avoir su que c'est la volonté de Dieu de le sauver. C'est la parole de Dieu, plantée, arrosée et gardée fermement dans la foi, qui guérit l'âme et le corps. Cette semence doit rester plantée, et il faut continuer à l'arroser, jusqu'à ce qu'elle produise la récolte attendue. Si vous dites « Je crois que le Seigneur est capable de me guérir », sans savoir, par la parole de Dieu, qu'il veut vous guérir personnellement, c'est comme si un fermier disait « Je crois que Dieu est capable de me donner une récolte ». Sans avoir planté ni arrosé la semence. Dieu ne peut pas sauver l'âme d'un homme sans que cet homme ait d'abord connu la volonté de Dieu dans ce domaine. En effet, on est sauvé par la foi, en faisant confiance à la volonté révélée de Dieu. La guérison, c'est le salut du corps. Quand vous priez pour la guérison, en utilisant ces paroles mortelles pour la foi si c'est ta volonté, Seigneur, vous ne plantez pas la semence, mais vous la détruisez. La prière de la foi qui guérit le malade doit suivre et non précéder l'introduction de la semence, la parole, qui seule peut soutenir la foi. Le Saint-Esprit dit de l'Évangile que c'est une puissance de Dieu pour le salut, dans tous ses aspects, physiques et spirituels. Tout l'Évangile est pour toute créature et pour toutes les nations. L'Évangile ne nous laisse pas dans l'incertitude, pour prier avec un si c'est ta volonté. L'Évangile nous montre quelle est la volonté de Dieu. Ces paroles du Saint-Esprit, il s'est chargé de nos maladies, Matthieu 8:17, font partie de l'Évangile, au même titre que ces paroles, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, 1 Pierre 2:24. Les promesses de l'Évangile, qu'elles soient pour l'esprit ou pour le corps, ne peuvent être reçues par la seule prière. La semence est impuissante tant qu'elle n'est pas plantée. Beaucoup, au lieu de dire « prie pour moi », devraient d'abord dire « enseigne-moi la parole de Dieu, afin que je puisse coopérer intelligemment avec lui pour ma guérison ». Nous devons savoir quels sont les bénéfices que nous apporte le calvaire, avant de pouvoir nous en saisir par la foi. David dit bien « lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Lorsque nous avons été suffisamment éclairés, notre attitude envers la maladie devrait être la même que notre attitude envers le péché. Notre détermination à voir notre corps guéri devrait être aussi ferme que notre détermination à voir notre âme guérie. Le fait que Christ ait porté sur lui nos péchés et nos maladies est certainement une raison valable pour lui faire confiance maintenant pour être délivré de ces choses. Lorsque nous nous en remettons résolument à Dieu, dans la prière, pour être pardonnés de nos péchés, nous devons croire, par l'autorité de sa parole, que notre prière a été entendue. Nous devons faire de même lorsque nous prions pour la guérison. Après avoir été suffisamment éclairés par les promesses de Dieu, et en croyant simplement que notre prière a été entendue, avant même que nous puissions voir la réponse comme Jésus nous l'a commandé dans Marc 11, 24, puis en mettant en pratique Hébreux 10, 35, 36, nous pouvons toujours voir s'accomplir n'importe quelle promesse de Dieu. C'est la volonté de Dieu que chaque chrétien pratique avec succès Hébreux 6, 11 et 12. Entre le moment où nous avons résolument remis à Dieu la guérison de notre corps, et celui de la manifestation complète de notre guérison, nous pouvons, et nous devons, apprendre l'une des leçons les plus précieuses de notre vie chrétienne. Cette leçon consiste à pratiquer ce qui est enseigné dans Hébreux 6, 36. Seules les promesses de Dieu peuvent affermir notre foi. Lorsque Jonah eut prié pour obtenir miséricorde, il n'abandonna pas sa confiance, parce qu'il n'avait encore aucune preuve visible que sa prière avait été exaucée. Non, il demeura ferme dans sa confiance, et il ajouta même, à l'avance, un sacrifice d'action de grâce, Jonah 2:9. Dans Hébreux 13, 15, le Saint-Esprit nous commande de tous faire cela continuellement. Les promesses de Dieu produisent leurs prodiges lorsque nous contemplons les réalités éternelles, ses promesses, sa fidélité, et ce sera, lorsque nous les pratiquons et refusons d'être troublés par les choses temporelles qui leur semblent contraires. Dieu accomplit toujours ses promesses lorsqu'il peut obtenir de nous une juste coopération. Il nous accepte toujours et il œuvre toujours en notre faveur, lorsque nous observons Marc 11, 24 et Hébreux 10, 35, 36. Je le rassasirai de longs jours est une promesse de Dieu dont nous pouvons tous nous saisir, Psaume 91, 16. Des instructions complètes au chapitre 4 des Proverbes, du verset 20 au verset 22, nous trouvons les instructions les plus complètes concernant la manière de recevoir la guérison. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu ne peut pas être santé pour notre âme ou notre corps, si elle n'est pas d'abord entendue, reçue, et considérée attentivement. Remarquez qu'il est dit ici que la parole de Dieu n'est vie que pour ceux-là seuls qui la trouvent. Si vous voulez recevoir la vie et la guérison de Dieu, prenez le temps de trouver les paroles de l'Écriture qui promettent de tels résultats. Quand la parole de Dieu devient santé pour tout votre corps, votre cancer disparaît, votre tumeur s'en va, votre goitre fond. Nous avons vu la parole produire ses résultats des milliers de fois, lorsqu'elle est reçue et mise en pratique. Des milliers de personnes ne sont pas en bonne santé aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver les paroles de Dieu qui produisent la guérison. C'est la méthode divine qui nous permet de recevoir les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Beaucoup n'ont pas pu recevoir leur guérison, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi cette méthode. Dieu dit que lorsque nous faisons ce qu'il nous dit dans l'Écriture, ces paroles deviennent santé pour tout notre corps. De quel corps s'agit-il? Du corps de ceux qui ont trouvé et considéré attentivement les paroles de Dieu qui parlent de ce sujet. C'est exactement de la même manière que la parole de Dieu devient santé pour notre âme. On ne peut pas regarder dans deux directions différentes en même temps dans ce passage très détaillé. Dieu nous dit exactement comment être attentif à ses paroles. Il dit qu'elles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Au lieu de garder nos yeux fixés sur nos symptômes, et d'être préoccupés par eux, que notre regard ne s'éloigne pas des paroles de Dieu. C'est-à-dire que nous devons continuellement regarder ses paroles et, comme Abraham, être fortifiés par la foi en ne considérant que les promesses de Dieu et rien d'autre. De même qu'une semence ne peut accomplir son œuvre que si elle demeure dans le sol, ainsi, la semence incorruptible de Dieu ne peut agir efficacement en nous que si elle est gardée dans le fond de notre cœur. Cela ne veut pas dire de temps en temps, mais continuellement. Beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à faire cela. Nous devons faire comme les fermiers. Lorsque nous sommes attentifs aux paroles de Dieu, en ne les éloignant pas de nos yeux, et en les gardant dans le fond de notre cœur, la semence est alors dans une bonne terre, dont Jésus a dit qu'elle portait du fruit, et dont Paul dit qu'elle travaille puissamment. Une fois que le fermier a planté sa semence, il ne la déterre pas chaque jour pour voir comment elle va, mais il dit « Je suis heureux que ce soit fait », et il croit que la semence a commencé son œuvre. Pourquoi ne pas avoir la même foi en cette semence incorruptible, la parole de Christ, dont il a dit qu'elle est esprit et vie, et ne pas croire qu'elle est déjà en train d'accomplir son œuvre, sans attendre de voir. Si un fermier, qui ne bénéficie d'aucune promesse précise, peut avoir foi dans la nature, pourquoi le chrétien ne pourrait-il pas avoir foi dans le Dieu de la nature? Le psalmiste dit « Ta parole m'a rendu la vie ». Paul nous dit que c'est la parole qui travaille puissamment dans la vie de ceux qui croient. Chaque parole de Dieu est esprit et vie, et travaillera en nous si nous la recevons et si nous y prêtons attention. Lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous lui obéissons, nous pouvons dire avec Paul « La puissance de Dieu travaille puissamment en moi ». Ainsi, la parole de Dieu devient la puissance de Dieu. Elle est esprit et vie. Si le champ dans lequel la semence a été plantée pouvait nous parler, il dirait « La semence travaille puissamment en moi ». Trois choses essentielles. Ce passage des Proverbes nous décrit quelle est la méthode du Seigneur pour obtenir les promesses de la parole de Dieu. 1. Nous devons avoir une oreille attentive, prête l'oreille à mes discours. 2. Nous devons avoir des yeux fermement fixés qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. 3. Nous devons avoir un cœur qui les garde au plus profond de lui-même. Garde-les dans le fond de ton cœur. Lorsque vos yeux sont fixés sur vos symptômes, et lorsque vos pensées sont plus occupées par ces symptômes que par la parole de Dieu, vous avez planté dans votre terrain une mauvaise semence, qui ne produira pas la récolte désirée. Vous avez planté dans votre champ des semences de doute. Vous essayez d'obtenir une certaine récolte en utilisant des graines étrangères. Il est impossible de semer des mauvaises herbes pour récolter du blé. Peut-être que vos symptômes annoncent la mort, mais la parole de Dieu vous annonce la vie, et vous ne pouvez pas regarder en même temps dans deux directions opposées. Quelle sorte de semences avez-vous plantées? Quelle sorte de semences avez-vous dans votre champ? Que les paroles de Dieu ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est-à-dire garde les yeux continuellement fixés sur la seule preuve que Dieu te donne pour ta foi. Dieu dit à tous les incurables, en parlant du serpent d'airain, « Quiconque le regardera conservera la vie » Nombre 21:8. Le verbe « regarder » est ici au temps présent continuel. Il ne signifie pas jeter un simple coup d'œil, mais il veut dire que ses paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Les motifs qui retiennent notre attention sont extrêmement puissants. C'est notre Père Céleste qui parle. Le ciel tout entier se tient derrière ces paroles. Ces choses qui nous sont dites possèdent une vertu vivifiante et revigorante. Ces paroles sont vie pour tous ceux qui les trouvent, et santé non seulement pour l'âme, mais pour le corps. Non seulement pour une certaine partie du corps, mais pour tout le corps. Lorsqu'un inventeur découvre un médicament capable de guérir un seul membre du corps, il peut faire fortune. Mais nous avons ici un médicament pour tout le corps, de la tête aux pieds. Nous avons un médecin dont la compétence est infinie, qui guérit toutes nos maladies. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Après avoir planté votre semence, vous croyez qu'elle est en train de pousser, avant même que vous puissiez la voir grandir. C'est la foi qui est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. En Christ, vous possédez une démonstration parfaite pour votre foi. Tout homme ou toute femme peut être complètement débarrassé de ses doutes en regardant uniquement et fermement la seule preuve que Dieu nous ait donnée pour notre foi. La foi naît et grandit quand on ne considère que ce que Dieu dit. Il nous sera alors plus facile de croire que de douter. Car les preuves sur lesquelles peut s'appuyer notre foi sont bien plus fortes que celles qui peuvent alimenter nos doutes. Ne doutez pas de votre foi, mais doutez de vos doutes, car vous ne pouvez leur faire confiance. Aux quelles bénédictions nous recevons lorsque nous regardons à Christ avec foi, nous trouvons vie, lumière, liberté, amour, joie, conseil, sagesse, compréhension, santé parfaite, toutes choses en réalité, lorsque nous fixons nos regards sur le crucifié. Personne n'attache jamais en vain son regard sur le grand médecin. Tous ceux qui regardaient le serpent d'airain, qui était un type de Christ, conservaient la vie. Et leur visage ne se couvrait pas de honte, dit le psalmiste. Humainement parlant, ils étaient tous incurables, mais ils furent à la fois pardonnés et guéris en portant leur regard sur le serpent d'airain. Celui qui place sa confiance en Christ n'aura pas à rougir de l'avoir fait. Le temps et l'éternité lui prouveront qu'il a eu raison d'avoir confiance. Ce livre montrera à ceux qui ont besoin d'être guéris quel passage de la parole de Dieu ils devront recevoir et considérer avec attention. Certains ont été miraculeusement guéris en lisant le chapitre suivant. Chapitre 2 : Jésus nous a-t-il racheté de nos maladies ? Note à l'attention du lecteur, si l'on vous a enseigné à regarder la maladie comme une écharde dans la chair que vous devez garder, nous vous exhortons vivement à lire tout d'abord le chapitre intitulé l'écharde de Paul avant de lire tout autre chapitre. Sinon, vous ne pourrez probablement pas saisir la puissance des arguments scripturaires présentés dans les autres chapitres de ce livre. Avant de répondre à la question posée ci-dessus, j'attire votre attention sur quelques vérités enseignées dans l'Écriture sur ce sujet. Les Écritures déclarent, dans Romains 5:12, que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Il est ici clairement établi que la mort est entrée dans le monde par le péché. Il est donc clair que la maladie, qui est l'antichambre de la mort, est aussi entrée dans le monde par le péché. Ainsi, puisque la maladie est entrée par le péché, son véritable remède doit être trouvé dans la rédemption accomplie par Christ. Puisque le diable est celui qui oppresse, Actes 10:38, quelle puissance peut le chasser, quand la nature ne peut plus agir, sinon la puissance du Fils de Dieu ? Si la maladie progresse jusqu'au stade où la nature ne peut plus rien pour nous guérir, il en résultera une mort certaine, à moins qu'elle ne soit ôtée par la puissance de Dieu. Tout médecin honnête admettra cela, car les médecins ne prétendent pas guérir, mais seulement aider la nature. Ainsi, lorsque Dieu veut agir pour suppléer à la nature défaillante, tout ce qui bloquera sa puissance rendra la guérison impossible. C'est pourquoi Jacques dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris ». Cela signifie que si vous ne les confessez pas, vous ne pouvez pas être guéri. Lorsque la maladie a progressé au-delà des limites de l'action de la nature, ni les médecins, ni même la prière, ne peuvent guérir le malade, s'il ne confesse pas ses péchés. À moins que Dieu, pour une raison dont il reste souverain, n'enlève la maladie. Puisque la maladie fait partie de la malédiction, son véritable remède doit être trouvé à la croix. Car qui peut ôter la malédiction, si ce n'est Dieu ? Et comment Dieu pourrait-il le faire d'une manière juste, sinon par la substitution de Christ ? La Bible enseigne, ainsi que l'a dit quelqu'un, que la maladie est le châtiment physique de l'iniquité, mais que Christ a porté dans son corps toutes les conséquences physiques de nos péchés, et que notre corps est donc juridiquement libéré de la maladie. Par la rédemption de Christ, nous pouvons tous obtenir, comme une partie des prémices de notre héritage, la vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle, pour prendre le relais de la nature, jusqu'à ce que notre œuvre soit achevée. De même que nous pouvons recevoir les prémices de notre salut spirituel, nous pouvons aussi recevoir les prémices de notre salut physique. Revenons à présent à la question posée. Jésus nous a-t-il racheté de nos maladies lorsqu'il a expié nos péchés? Si, comme certains l'enseignent, la guérison n'est pas comprise dans l'expiation accomplie par Jésus-Christ, pourquoi voyons-nous dans tout l'Ancien Testament des types d'expiation accompagner la guérison du corps? Dans Exode 12, pourquoi est-il demandé aux Israélites de manger l'agneau de la Pâque pour avoir de la force physique, si ce n'est pour que nous puissions recevoir la vie et la force dans notre corps, par Christ, qui est notre Pâque, comme le dit l'apôtre Paul? 735 années après l'institution de la Pâque, nous lisons dans 2 Chroniques 30-20 traduction du texte original « L'Éternel exauça Ézéchia, et il guérit le peuple lorsqu'il eut rétabli la Pâque ». C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 11-30, dit aux Corinthiens que c'est parce qu'ils n'ont pas su discerner le corps de Christ, notre Pâque, qu'il y avait parmi eux beaucoup d'infirmes et de malades. La Sainte Cène n'est plus qu'une ordonnance, parce qu'il nous est possible de communier à Christ lorsque nous partageons les symboles de sa mort, et les bénédictions que cette mort nous a acquises. En Christ nous trouvons la vie pour notre corps comme pour notre esprit, et il n'y a certainement pas de meilleure occasion pour nous prévaloir du privilège d'avoir la vie de Jésus manifestée dans notre chair mortelle de Corinthiens 4:11. La guérison telle qu'elle est enseignée dans l'Ancien Testament. Dans Lévitique 14-18, nous voyons le sacrificateur accomplir l'expiation pour la purification du lépreux. Pourquoi faudrait-il une expiation pour la guérison de la lèpre, si la guérison ne nous était pas acquise dans l'expiation accomplie par Christ? Les modèles qui nous sont présentés dans les chapitres 14 et 15 du Lévitique nous montrent que la maladie était invariablement guérie au travers d'une expiation. Même si nous ne devions pas aller plus loin dans notre message, ceci devrait répondre parfaitement à la question que nous avons posée, parce que toutes ces expiations annoncent et préfigurent le calvaire. Jésus nous dit, dans Luc 4:19, qu'il a été oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Il faisait référence à l'année du Jubilé, dans l'Ancien Testament. Lévitique 25:9 nous montre que les bénédictions de l'année du Jubilé devaient être annoncées au son de la trompette, le jour des expiations. Ce jour-là, un bélier était offert en sacrifice comme expiation pour le péché, et le propitiatoire était aspergé de sang. Aucune bénédiction n'était accordée tant que le sang de l'expiation n'avait pas été répandu sur le propitiatoire. Le trône de miséricorde serait alors devenu un trône de jugement, si le propitiatoire n'avait pas été aspergé de sang. Ceci nous enseigne que nous ne pouvons recevoir aucune miséricorde ni aucune bénédiction de l'Évangile, si ce n'est par l'expiation de Christ. La restitution de tout ce qui a été perdu par la chute. Par la chute, nous avons tout perdu. Jésus nous a tout restitué par son expiation. C'est le jour des expiations que Dieu a dit « chacun de vous retournera dans sa propriété ». De même, nous devons aujourd'hui respecter l'ordre suivant tout d'abord, le calvaire, et ensuite la trompette de l'Évangile, pour proclamer à toute créature qu'il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies, en nous montrant par là que chacun peut à présent retourner dans sa propriété. L'un des sept non-rédempteurs de Dieu est Yahweh-Rapha « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ceci nous montre à quel bienfait perdu tout homme peut retourner, dans notre dispensation. Dans notre ère de l'Évangile, les deux possessions essentielles qui nous sont restituées sont la santé pour notre âme et pour notre corps. C'est pourquoi le pardon et la guérison étaient universellement offerts partout où Christ a proclamé l'année de grâce du Seigneur, afin que l'homme intérieur, comme l'homme extérieur, soit en bonne santé, prêt à servir le Seigneur, et prêt à accomplir toute bonne œuvre, jusqu'à la fin de leur course terrestre. Certains chrétiens fondamentalistes reprochent à la science chrétienne de croire que l'on puisse être sauvé sans passer par le calvaire. Ils commettent pourtant la même erreur, croire en la guérison, mais sans croire qu'elle peut être reçue sans passer par le calvaire. C'est pour moi un mystère que quelqu'un puisse dire que le sang de Jésus n'avait pas besoin d'être versé pour être efficace, alors que tous les sacrifices de sang de l'Ancien Testament proclament le contraire, de même que ce verset, selon lequel sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de péché. Adopter une religion d'où le sang est exclu, c'est adopter une religion d'idées, une construction humaine qui peut satisfaire l'homme. Mais personne ne connaîtra cette joie indicible et pleine de gloire, que connaissent ceux qui ont été sauvés par le sang de Christ. C'est pour moi un grand mystère de voir ces chrétiens fondamentalistes proclamer que la guérison peut nous être donnée sans faire aucune référence à la mort de Christ. L'Écriture ignore complètement un salut qui serait accordé sans sacrifice, quelle que soit la partie de notre être concerné. Si la guérison du corps doit être offerte et prêchée sans faire référence au calvaire, pourquoi fallait-il attendre le jour des expiations pour que la trompette annonce les bénédictions de l'année du jubilé? Paul dit que c'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce qui revient à dire que toutes les promesses de Dieu, y compris sa promesse de guérir, n'existent et ne sont efficaces que grâce à la seule œuvre rédemptrice de Christ. La guérison n'est pas réservée à l'époque du millénium. Certains pasteurs s'efforcent de reléguer la guérison du corps à l'époque du jour du millénium, mais Jésus a dit aujourd'hui et pas au jour du millénium, cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. C'est au sein de l'Église et pas pendant le millénium, que Dieu a établi des docteurs, accompli des miracles, accordé des dons de guérison, et se taira. Au cours du millénium, personne dans l'Église n'aura besoin de guérison, parce que nous recevrons tous des corps glorifiés avant le millénium, lorsque nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. S'il nous fallait reléguer la guérison à l'époque du millénium, nous devrions en faire autant pour ce qui concerne les docteurs que Dieu a établis dans l'Église, ainsi que pour les dons de guérison. Dire que la guérison est réservée au millénium revient à dire que nous sommes déjà maintenant dans le millénium, parce que Dieu guérit des multitudes aujourd'hui. Dieu promet à tous de répandre son Saint-Esprit sur toute chair au cours de l'année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire la dispensation du Saint-Esprit. Il vient pour accomplir en notre faveur toutes les bénédictions de la rédemption, pour nous donner les prémices de notre héritage spirituel et physique, jusqu'à ce que le dernier ennemi, c'est-à-dire la mort, soit détruit, et que nous soyons ainsi introduits dans la plénitude de notre héritage. La foi vient de ce que l'on entend. La raison pour laquelle tant de malades aujourd'hui ne récupèrent pas leur héritage physique est qu'ils n'ont pas entendu la trompette le proclamer. La foi vient de ce que l'on entend, et ils n'ont pas entendu. Parce que de nombreux pasteurs ont détraqué leur trompette pendant qu'ils étaient dans leur école biblique. Ceci me rappelle l'histoire d'un homme que j'ai connu, et qui jouait du trombone dans un orchestre de cuivre. Au début d'une répétition, des gamins avaient introduit un petit clou dans l'embouchure de son instrument. Lorsqu'il soufflait, l'air repoussait la tête du clou à l'intérieur du trombone, ce qui ne lui permettait pas de produire un son bien net. Mais il continua à jouer pendant toute la répétition sans s'apercevoir du problème. Certains prédicateurs sont comme cet homme. Ils soufflent bien dans la trompette de l'Évangile, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ne produisent que la moitié du son qu'ils devraient produire. Comme le dit Paul, ils ne donnent pas tout le conseil de Dieu. De même que dans le Lévitique nous voyons que la guérison était invariablement obtenue en raison d'une expiation, de même, Matthieu 8:17 déclare nettement que Christ a guéri toutes les maladies en raison de son expiation. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Puisqu'il a porté nos maladies, et que son expiation s'étend à nous tous, il serait donc nécessaire que tous soient guéris pour que s'accomplisse cette prophétie. Jésus guérit toujours aujourd'hui tous ceux qui viennent à lui avec une foi vivante, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé puisqu'à cette époque plus enténébrée tous avaient le privilège d'être guéris. Certainement, dans cette meilleure dispensation, qui comporte une meilleure alliance et de meilleures promesses, Dieu n'a pas retiré la miséricorde dont il avait fait preuve dans l'Ancien Testament. Si cela avait été le cas, cela signifierait que nous en aurions été privés par la venue de Christ et par son expiation. Dans Nombre 16:46-50, lorsque 14 700 personnes périrent de la plaie, Aaron, en tant que sacrificateur, dans son ministère de médiation, se tint en faveur du peuple, entre les morts et les vivants, et il fit une expiation pour que la plaie soit ôtée et que les malades soient guéris. Ainsi, Christ, notre médiateur, nous a rachetés par son expiation de la plaie du péché et de la maladie. Le type du serpent d'airain. Nous lisons encore, dans Nombre 21:9, que les Israélites étaient tous guéris lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain qui avait été élevé, et qui était un type d'expiation. Si la guérison n'est pas comprise dans l'expiation de Jésus, pourquoi ces Israélites mourants devaient-ils regarder à cette préfiguration de l'expiation de Christ, pour recevoir la guérison de leur corps? Puisque le pardon et la guérison leur étaient donnés au travers d'une préfiguration de l'expiation, pourquoi ne nous serait-il pas donné au travers de l'expiation de Christ lui-même? De même que leur malédiction a été ôtée quand le serpent d'airain a été élevé. Ainsi, Paul nous dit que notre malédiction a été ôtée lorsque Christ a été élevé. Galates 3:13. Dans Job 33:20-85, nous lisons encore « J'ai trouvé une rançon, une expiation et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse ». Nous voyons ici que la chair de Job a été guérie par le moyen d'une expiation. Pourquoi notre chair ne le serait-elle pas? David commence le psaume 103 en demandant à son âme de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun de ses bienfaits. Puis il précise « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies ». Comment Dieu pardonne-t-il le péché? Évidemment, par l'expiation de Christ. Il guérit la maladie de la même manière, parce que l'expiation de Christ est l'unique moyen par lequel l'homme déchu puisse recevoir n'importe quelle bénédiction divine. Comment Dieu pourrait-il sauver l'homme tout entier, si ce n'est par l'expiation de Christ? Dans 1 Corinthiens 10:11, Paul nous dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans Galates 3:7, 16, 29, le Saint-Esprit nous montre clairement que ces choses sont pour les païens tout comme pour Israël. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, et si vous les païens êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous ne sommes donc plus des étrangers, mais des concitoyens des saints dans la maison de Dieu. Les sept non-rédempteurs de Io est, pour moi, un autre argument décisif prouvant que la guérison est comprise dans l'expiation de Christ peut être trouvé dans les sept non-rédempteurs de Dieu. Dans sa Bible, Scofield a rédigé une note sur ces non-rédempteurs. Il dit que le nom de Dieu, Yahweh, est sans aucun doute le nom rédempteur du Seigneur, car il signifie celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Selon lui, ces sept non-rédempteurs ont été choisis parce qu'ils révèlent progressivement et de mieux en mieux la nature de Dieu. Puis il ajoute dans sa relation rédemptrice avec l'homme, Yahweh possède sept noms composés qui le révèlent comme celui qui satisfait tous les besoins de l'homme dans sa condition déchue. Puisque ces noms révèlent une relation rédemptrice entre Dieu et les hommes, chacun d'eux doit faire référence au calvaire, lieu de notre rédemption. Et les bénédictions que chaque nom révèle doivent être obtenues au travers de l'expiation. C'est ce que les Écritures enseignent clairement. Voici quels sont les sept noms rédempteurs de Dieu. 1. Yahweh Ama Ézéchiel 48:35. L'Éternel est ici ou présent. Ce nom nous révèle le privilège de jouir de sa présence, privilège acquis par la rédemption. Il a dit « Voici, je suis toujours avec vous ». La preuve que cette bénédiction nous est accordée par l'expiation se trouve dans le fait que nous avons été rapprochés par le sang de Christ 2. Yoé Shalom juge 6:24 l'Éternel notre paix. Ce nom nous révèle le privilège d'avoir sa paix, privilège acquis par la rédemption. C'est pourquoi Jésus dit « Je vous laisse ma paix ». Cette bénédiction est comprise dans l'expiation, parce que le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, lorsqu'il a fait la paix par le sang de sa croix 3. Yoé Psaume 23:1 L'Éternel est mon berger. Il est devenu notre berger en donnant sa vie pour ses brebis. Ce privilège nous a donc aussi été acquis par la rédemption 4. Yoé Jiré Genèse 22:14 L'Éternel pourvoira. Le Seigneur a pourvu une offrande. Christ est l'offrande livrée pour notre complète rédemption 5. Yoé Nissi Exode 17:15 L'Éternel est notre bannière ou notre vainqueur, notre chef. Par la croix, Christ a triomphé des principautés et des dominations. C'est là qu'il a acquis pour nous, par son expiation, le privilège rédempteur de pouvoir dire grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ 6. Yo et sit connu Jérémie 33:16 L'Éternel notre justice. Il est devenu notre justice en portant nos péchés sur la croix. Nous possédons donc, par la rédemption, la bénédiction et le privilège de recevoir le don de la justice. Le Seigneur est notre médecin. 7. Yoé Rapha Exode 15:26 Je suis l'Éternel qui te guérit. Ce nom est donné pour nous révéler le privilège, acquis par la rédemption, de recevoir la guérison. Ce privilège nous a été obtenu par l'expiation de Christ, car Ésaïe, dans son chapitre 53 consacré à la rédemption, déclare dans la version originale « Il s'est chargé de nos maladies et a porté sur lui nos douleurs ». J'ai préféré parler de ce nom en dernier, pour les besoins de ma démonstration. Il faut remarquer que la toute première alliance que Dieu a conclue avec son peuple, après le passage de la mer Rouge, qui préfigure tellement bien notre rédemption, était une alliance de guérison. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé comme celui qui est notre médecin, par ce tout premier nom rédempteur qui scellait l'alliance « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Ceci n'est pas seulement une promesse, c'est une loi et une ordonnance. Parallèlement à cette antique ordonnance, nous trouvons, dans le commandement donné par Jacques 5:14, une ordonnance formelle pour la guérison au nom de Jésus-Christ. Chaque Église doit considérer cette ordonnance comme aussi sacrée et aussi obligatoire à observer que la Sainte Cène et le baptême chrétien. Étant donné que Yoé Rapha est l'un des sept noms rédempteurs, qui scelle l'alliance de guérison, Christ, dans sa position glorifiée actuelle, ne peut pas plus abandonner son ministère de guérison qu'il ne peut abandonner les ministères révélés par chacun des six autres noms rédempteurs. Les bénédictions révélées par ces sept noms rédempteurs seraient-elles absentes de notre dispensation, qualifiées de meilleures? Après avoir considéré certains exemples qui préfiguraient l'expiation de Christ, considérons la rédemption elle-même, telle qu'elle est décrite dans ce grand chapitre 53 du prophète Ésaïe, qui décrit cette rédemption. C'est le plus grand des chapitres du plus grand des prophètes, qui établit pleinement la doctrine de l'expiation. Puisque les exemples de l'Ancien Testament enseignaient la guérison, il serait certainement incorrect et illogique de placer le modèle suprême à une position moins élevée. Il s'est chargé de nos douleurs. Avant d'entrer dans l'étude de ce passage, puis-je souligner que les mots hébreux koli et makob ont été mal traduits par un certain nombre de versions. La version second les traduit par souffrance mauvaise traduction, et douleur bonne traduction. Tous ceux qui ont pris le temps d'examiner le texte originel ont pu constater, et ceci a été reconnu d'une manière universelle, que ces deux mots signifient respectivement maladie et douleur. C'est ainsi qu'ils ont été traduits dans tout le reste de l'Ancien Testament. Le mot koli est traduit par maladie dans Deutéronome 7:15, 28:61, 1 Roi 17:17, 2 Roi 1:2, 8:8, 2 Chroniques 16:12, 21:25, etc. Le mot makob est traduit par douleur dans Job 14:22, 33:19, etc. Par conséquent, ce que le prophète dit, dans Ésaïe 53:4, est « Il s'est certainement chargé de nos maladies et a porté sur lui nos douleurs ». Nous renvoyons le lecteur à n'importe quel commentaire biblique pour en obtenir des confirmations supplémentaires. Mais le meilleur commentaire est encore Matthieu 8:16-17. Un commentaire inspiré. C'est Matthieu 8:16-17 qui prouve le mieux qu'Ésaïe 53:4 ne parle pas de maladie de l'âme, et que les mots traduits par maladie et douleur ne concernent nullement des problèmes spirituels, mais des maladies physiques. Voici ce que dit ce passage: il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Nous avons là un commentaire inspiré de ce verset 4 d'Ésaïe 53, qui nous déclare clairement que le prophète parle des maladies physiques. Par conséquent, il faut traduire littéralement le mot colis par maladie dans Ésaïe. C'est le même Saint-Esprit qui a inspiré ce verset et qui le cite dans Matthieu, pour démontrer le souci universel de Christ d'employer sa puissance pour guérir les corps. Le fait de choisir toute autre interprétation revient à accuser le Saint-Esprit d'avoir fait une faute en citant sa propre prophétie. Je voudrais ici citer la version de l'érudit D.R. Yuon traduite littéralement en français V3. Il était méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur macabre et habitué à la maladie colie. Comme quelqu'un qui détourne son visage de nous, il est méprisé et nous n'avons aucune considération pour lui V4. Certainement, il a porté nos maladies colies, et il a emporté avec lui nos douleurs macabres. Et nous avons pensé qu'il était frappé d'une plaie, châtié par Dieu et dans l'affliction V5. Mais il est percé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix est sur lui, et, par ses meurtrissures, nous avons la guérison V6. Nous tous, nous avons erré comme des brebis, nous nous sommes tournés chacun de notre côté, et Yahvé a veillé à ce que retombe sur lui le châtiment de nous tous V10. Et il a été dans le bon plaisir de Yahvé de le meurtrir. Il l'a rendu malade colie. Et son âme constitue effectivement une offrande pour le péché. Il voit sa semence lever, et il prolonge ses jours V12. Il a été compté avec les transgresseurs, il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et il intercède pour les transgresseurs. Le D.R. Isaac Lezé, qui a traduit la Bible de l'hébreu en anglais, donne de ces versets la traduction suivante V3. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la maladie V4. Mais ce ne sont que nos maladies qu'il a portées lui-même, et nos douleurs dont il s'est chargé V5. Et par ses meurtrissures, la guérison nous est assurée V10. Mais il a plu au Seigneur de l'écraser par la maladie. Rotherham traduit ce verset 10 de la manière suivante: il a placé sur lui la maladie. La traduction du grand rabbinat français est la suivante V3. Méprisé, repoussé des hommes, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte V4. Et pourtant ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait V5. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison V10. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie. La version d'André Chouraki, connue pour être très proche du texte original, est la suivante. V3. Méprisé, refusé par les hommes, homme de douleur, pénétré de maladie V4. Ainsi, il portait nos maux, supportait nos douleurs V5. Mais en sa blessure nous sommes guéris V10. Yahvé désire l'accabler, l'endolorir. Il ôte notre fardeau et le porte au calvaire. Au verset 4, le mot traduit par le verbe porter nasa en hébreu, signifie soulever, porter au loin, emporter à une longue distance. C'est un mot du vocabulaire lévitique, qui est utilisé à propos du bouc émissaire, qui portait au loin, sur lui, les péchés du peuple. Le bouc emportera nasa sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert Lévitique 16:22. De la même manière, Jésus a emporté sur lui mes péchés et mes maladies hors du camp, jusqu'à la croix. Cela signifie qu'au calvaire, le péché et la maladie sont passés de moi sur lui, et que le salut et la guérison sont passés de lui sur moi. Les mots hébreux traduits au verset 4 par porter nasa et se charger de sa balle sont exactement les mêmes que ceux qui sont utilisés au verset 11 et 12 pour décrire le caractère substitutif de l'œuvre de Christ en ce qui concerne le péché. Il se chargera nasa de leurs iniquités v 11 et parce qu'il a porté sa balle les péchés de beaucoup d'hommes v 12. Ces deux mots impliquent l'idée de porter un lourd fardeau, et indiquent une substitution effective, et un enlèvement complet de la chose portée au loin. Lorsque Jésus a porté nos péchés, nos maladies et nos douleurs, il les a emportés au loin, et les a complètement enlevés de nos vies. Ces deux termes parlent de substitution, et indiquent que notre fardeau a été porté par quelqu'un d'autre. Quel que soit le sens donné au verbe hébreu nasa et sabal, le même sens doit être donné dans les deux situations, c'est-à-dire pour le fait de porter nos péchés, et celui de porter nos maladies. Modifier le sens dans une situation signifie que l'on aurait la liberté de le modifier dans l'autre. Aucun expert de l'Évangile ne discute le fait que ces verbes, appliqués au péché, ont un sens strictement substitutif et expiatoire. Par conséquent, ces mêmes verbes, appliqués à la maladie, doivent avoir exactement le même sens substitutif et expiatoire. Le fait que Jésus a pris soin de guérir toute maladie et toute infirmité est considéré par Matthieu comme un accomplissement de ce qu'Ésaïe avait prophétisé sur le serviteur de l'Éternel. Cela signifie que le Seigneur Jésus ne s'est pas contenté de compatir à nos souffrances, mais qu'il a littéralement pris sur lui, à notre place, les souffrances et les maladies que nous aurions dû justement porter. Par conséquent, non seulement il les a emportées au loin, mais il les a endurées dans sa propre personne, pour nous en décharger. Quand quelqu'un prend sur lui les souffrances qu'un autre aurait dû porter, il ne s'agit pas seulement d'un acte de compassion, mais d'une substitution, d'un remplacement d'une personne par une autre. Il est donc clair que le fait, pour Jésus, de se charger de nos maladies et de nos douleurs, constitue une partie intégrante de son œuvre rédemptrice, un bienfait qui nous est donné par son expiation à notre place. Cela fait partie de la doctrine de Christ crucifié. Jésus est bien le sauveur du corps comme il est celui de l'esprit. Il va aussi loin que la malédiction a pénétré, pour y déverser ses bénédictions avec abondance. La guérison divine, par une intervention directe du Seigneur, est un bienfait réservé à tous ceux qui croient, dans tous les temps de l'histoire de l'Évangile. Cela règle la question, pour tout prédicateur, de la nécessité de prêcher la guérison divine. Toutes les guérisons accomplies par Jésus au cours de son ministère terrestre ont été faites en vertu de l'expiation qu'il allait bientôt accomplir. Il en est de même pour tous les péchés qu'il a pardonnés pendant son ministère terrestre, car sans effusion de sang il n'y a pas de pardon de péché. La prophétie d'Ésaïe déclare que Jésus s'est chargé de nos maladies. Nos signifie qu'il a porté les maladies de tous les hommes, dans tous les temps. Ainsi, dans les seuls versets 4 et 5 de ce chapitre 53, nous voyons que Jésus est mort pour nos maladies, nos douleurs, nos péchés, nos iniquités, notre paix, notre guérison, car par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il nous faudrait tordre le sens de ces versets pour nous exclure de ses bénédictions. Ce chapitre 53 est la plus claire affirmation de notre rédemption complète de toute douleur et de toute maladie, par la mort expiatoire de Christ. Si Jésus, dans sa position glorifiée actuelle, était moins désireux de guérir tous les malades qu'au cours des jours de son humiliation sur terre, il devrait alors annuler la promesse faite dans Jean 14 12 13, et il ne serait plus celui qui est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Le fait que la guérison soit acquise par l'expiation de Jésus-Christ rend nécessaire la continuation de son ministère de guérison dans sa position actuelle, parce que son œuvre rédemptrice concerne aussi tous ceux qui sont sur la terre depuis qu'il a été élevé à la droite du Père. C'est pourquoi il a promis qu'il exaucerait tous ceux qui croient, et qu'il leur permettrait d'accomplir les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes encore. Tant que l'Église est restée sous la direction du Saint-Esprit, ces mêmes œuvres se sont poursuivies, comme le révèle l'histoire. Chaque fois qu'il s'est produit un réveil de la foi apostolique, nous voyons s'accomplir les mêmes miracles que ceux qui caractérisent l'Église des apôtres. L'apôtre Pierre écrit qu'il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, pour confirmer la prophétie d'Ésaïe. Jésus n'a jamais péché, mais il s'est chargé de nos péchés. Il n'a jamais été malade, mais il s'est chargé de nos maladies sur la croix. Le verset 4 d'Ésaïe 53 dit « Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Quelle est la punition du péché? C'est l'angoisse de l'âme, l'anxiété mentale, la maladie et la mort. La maladie fait donc partie de la punition du péché. Il fallait donc que la maladie soit éliminée par l'expiation accomplie par le Seigneur Jésus. Dieu ne nous aurait-il donc délivrés que d'une seule conséquence du péché, c'est-à-dire la mort spirituelle, sans nous délivrer aussi de toutes les autres conséquences? Faudra-t-il donc que cette amère conséquence du péché, la maladie, demeure en nous jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre? Loin de nous une pareille pensée. Ésaïe affirme que Jésus a été frappé pour l'iniquité de nous tous. Lui-même s'est écrié « Tout est accompli, il n'y a rien d'inachevé dans l'œuvre de notre puissant Jésus ». Si cela avait été le cas, le prophète aurait dû dire que Jésus a été frappé pour une partie seulement de l'iniquité de nous tous. La croix est un parfait remède pour l'homme tout entier. Deutéronome 28:15-62 parle de la malédiction de la loi, qui devait s'attacher à tous ceux qui ne la respectaient pas. Cette malédiction incluait toutes sortes de maladies connues et inconnues de l'homme, dont beaucoup sont mentionnées dans ce passage. Or Galates 3:13 affirme de manière claire que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Ce verset déclare que c'est bien sur la croix que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. En d'autres termes, il nous a rachetés de toutes ces maladies nommées dans Deutéronome 28 la peste, la consomption tuberculeuse, la fièvre, l'inflammation, la chaleur brûlante, le dessèchement, la jaunisse, la gangrène, l'ulcère d'Égypte, les hémorroïdes, la gale, la teigne, le délire, l'aveuglement, l'égarement d'esprit, l'ulcère malin, les plaies grandes et deux. Longue durée, les maladies graves et opiniâtres, toutes les maladies d'Égypte, et même toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Ceci inclut donc des maladies comme le cancer, la grippe, la rougeole, les oreillons, et toute autre maladie découverte de nos jours. Puisque Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et puisque la maladie fait partie de cette malédiction, il nous a donc certainement rachetés de la maladie. Rédemption est synonyme de calvaire. Puisque rédemption est synonyme de calvaire, nous sommes donc rachetés de toute la malédiction, que ce soit dans notre corps, notre âme ou notre esprit. Et ce rachat ne peut s'accomplir que par l'expiation de Christ. Puisque la maladie fait partie de la malédiction, comment Dieu pourrait-il justement enlever cette partie de la malédiction et guérir le malade, sans d'abord le racheter de cette malédiction? Puisque Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi, comment Dieu pourrait-il nous justifier, tout en nous demandant en même temps de rester sous la malédiction de la loi? Alors que l'apôtre Paul a dit « Vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce ». Romains 6:14. Bref, comment un homme qui n'est plus sous la loi pourrait-il demeurer sous la malédiction de la loi? Sinon, cela ne reviendrait-il pas à emprisonner à vie quelqu'un qui aurait été reconnu innocent par le tribunal, après qu'il ait été lavé de toute accusation de meurtre? Paul affirme dans l'Épître aux Romains que c'est Jésus que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3:25-26. En d'autres termes, s'il n'y avait pas eu l'expiation accomplie par Jésus, Dieu aurait été injuste s'il avait justifié le pécheur. De même, il serait aussi injuste s'il guérissait le malade sans d'abord nous racheter de la maladie. Le fait que Dieu ait toujours guéri tous les malades est pour moi la meilleure preuve que la guérison est comprise dans l'expiation. Si la guérison n'était pas comprise dans l'expiation, comment les multitudes auraient-elles pu obtenir de Jésus une guérison que Dieu n'était pas disposé à donner? Il les guérissait tous. Une question importante. Si le corps n'était pas touché par la rédemption, comment pourrait-il y avoir une résurrection? Comment la corruption pourrait-elle revêtir l'incorruptibilité, et ce qui est mortel revêtir l'immortalité? Si nous n'avons pas été rachetés de la maladie, ne devrions-nous pas être soumis à la maladie dans les cieux, s'il était possible d'avoir la résurrection indépendamment de la rédemption? Puisque la destinée future de l'homme est à la fois spirituelle et corporelle, il est donc nécessaire que sa rédemption soit aussi spirituelle et corporelle. Pourquoi le dernier Adam n'enlèverait-il pas de nous tout ce que le premier Adam nous a légué? J'aimerais citer ici le témoignage d'un seul des centaines de malades qui ont été guéris simplement en m'écoutant prêcher que la guérison est comprise dans l'expiation. Ils ont été guéris en mettant en action leur propre foi, avant même d'avoir l'occasion de recevoir l'onction d'huile. À l'âge de 8 ans, Madame Clara Rupert, de Lima, dans l'Ohio, avait eu une mauvaise coqueluche. En toussant, elle s'était rompu les muscles de l'un de ses yeux. Elle était devenue complètement aveugle de cet œil, qui était en outre complètement insensible à la douleur. Au cours de la campagne de réveil que nous avons conduite à Lima, elle eut l'occasion d'entendre une prédication sur l'expiation. Elle se dit dans son cœur si c'est vrai, et c'est vrai parce que la Bible le dit, alors je suis tout aussi certaine de recevoir ce soir même ma guérison, quand je vais m'approcher de l'estrade, que j'étais certaine de recevoir mon salut. Lorsque je me suis approché de l'estrade de cette église méthodiste, il y a quelques années, et que j'ai été sauvé. C'était tout à fait logique pour elle. Elle s'est donc approchée de l'estrade. Pendant que nous étions en train de prier pour les autres malades, elle demanda à Dieu de la guérir. Avant même que nous ayons pu l'oindre d'huile, elle bondit en pleurant, et retourna se jeter dans les bras de son père. L'auditoire se demandait pourquoi elle avait quitté la file d'attente sans recevoir l'onction d'huile. Son père lui demanda « Que se passe-t-il, ma fille ?» Elle répondit « Mon œil, il lui dit quoi donc ? Et ce qu'il te fait mal ?» Elle s'écria « Non, je peux voir parfaitement. » Quelques mois plus tard, nous conduisions une campagne de réveil à Saint-Paul, dans le Minnesota. Nous rencontrâmes cette femme accompagnée de son mari. Il s'était inscrit dans une école biblique et se préparait à travailler pour le maître. Son mari voulait prêcher l'évangile de Christ, qui avait guéri sa femme avec une telle compassion. Presque chaque jour, dans nos campagnes de réveil, nous pouvons entendre les témoignages de ceux qui ont été guéris à leur place, simplement en écoutant le message de l'évangile. Je ne suis pas le seul à prêcher que la guérison est comprise dans l'expiation. La plupart des meilleurs docteurs de l'Église, tels qu'A.B. Simpson, André Murray, A.T. Piesson, et A.J. Gordon, ont compris et enseigné cette vérité. Le Dr. Torrey, dans son livre consacré à la guérison divine, a écrit « La mort expiatoire de Jésus-Christ nous a non seulement acquis la guérison physique, mais aussi la résurrection et la glorification parfaite de notre corps de même que nous pouvons. Sur cette terre, jouir des prémices de notre salut spirituel. Ainsi nous pouvons y jouir également des prémices de notre salut physique. Chaque croyant, qu'il soit ou non ancien dans l'Église, a le privilège et le devoir de prier pour ses frères malades, dans la foi que Dieu entendra et guérira. » Ésaïe commence son chapitre 53 par cette question « Qui a cru à ce que nous avons annoncé ?» Puis il continue en disant qu'il s'est chargé de nos péchés et de nos maladies. À cette question, on peut répondre en disant que seuls ceux qui ont entendu cette annonce ont pu y croire, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce message a pour but de prouver que la guérison nous est donnée par l'expiation, et qu'il s'agit bien là d'une partie de cet évangile que Christ nous a commandé de prêcher au monde entier, à toute nation, à toute créature, dans une pleine puissance, et jusqu'à la fin de notre temps. Voici à présent un certain nombre de parallèles bibliques entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Adam, par sa chute, a fait entrer Adam, par sa chute, a fait entrer le péché dans notre âme, la maladie dans notre corps. Le péché est donc une œuvre du malin. La maladie est donc une œuvre du malin. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Actes 10, 38. Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable dans le corps. Le nom rédempteur Yahweh Rapha révèle son plan de rédemption pour notre corps. Au calvaire, Jésus s'est chargé de nos maladies. Il a été fait malédiction pour nous. Gal 3, 13. Quand il a porté nos maladies. Matt 8, 37. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Psaume 103:3. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Cor 6:20. Le corps a été racheté à grand prix. Le fait de rester malade, glorifiait-il Dieu dans notre corps? Jésus apparut afin de détruire les œuvres du diable dans l'âme. Le nom rédempteur Yoetzid que nous révèle son plan de rédemption pour notre âme. Au calvaire, Jésus s'est chargé de nos péchés. Il a été fait péché pour nous. 2 Cor 5:21. Lorsqu'il a porté nos péchés. 2 Pierre 2:24. Il a lui-même porté nos péchés sur le bois. 1 Pierre 2:24. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Psaume 103:3. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre esprit. L'esprit a été racheté à grand prix. Le fait de rester dans le péché, glorifie-t-il Dieu dans notre esprit? Puisqu'il a porté nos péchés, combien d'hommes Dieu doit-il sauver, quand ils viennent à lui? Quiconque croit. Christ a porté nos péchés pour que nous puissions en être délivrés. Non pas sympathie souffrir avec, mais substitution souffrir à la place de le fait que Jésus ait porté nos péchés. Dans son corps n'est-il pas une raison suffisante pour que nous ayons tous foi en lui pour qu'il pardonne nos péchés? La foi pour le salut vient du fait d'entendre l'évangile, il a pris nos péchés. Nous devons donc prêcher l'évangile du salut à toute créature. Christ promet que notre âme sera sauvée. Marc 16:16. À propos de l'ordonnance du baptême d'eau, la Bible enseigne que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16:16. Nous avons l'ordre de baptiser au nom du Seigneur. Acte 2:38. Pendant la Sainte Cène, le vin est pris en mémoire de sa mort pour le salut de notre âme. 1 Cor 11:25. Puisqu'il a porté nos maladies, combien d'hommes Dieu doit-il guérir, quand ils viennent à lui? Il les guérissait tous. Christ a porté nos maladies pour que nous puissions en être délivrés. Non pas sympathie souffrir avec, mais substitution souffrir à la place de le fait qu'il ait porté nos maladies. N'est-il pas une raison tout aussi suffisante pour que nous ayons tous foi en lui pour qu'il guérisse notre corps? La foi pour la guérison vient du fait d'entendre l'évangile, il a pris nos maladies. Nous devons donc prêcher l'évangile de la guérison à toute créature. Christ promet que notre corps sera guéri. Marc 16:18. À propos de l'ordonnance de l'onction d'huile, la Bible enseigne que celui qui croit et qui reçoit l'onction d'huile sera guéri. Jacques 5:14. Nous avons l'ordre d'oindre d'huile au nom du Seigneur. Jacques 5:14. Pendant la Sainte Cène, le vin est pris en mémoire de sa mort pour la guérison de notre corps. 1 Cor 11 23-24. Le pécheur doit se repentir avant de croire en l'Évangile et d'être sauvé. Le baptême d'eau est la preuve de notre consécration et de notre obéissance totale. Le pécheur doit accepter la promesse de Dieu comme vraie avant de sentir la joie du salut. Mais à tous ceux qui l'ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 12:13. Le malade doit confesser ses péchés avant d'être guéri. Jacques 5:16. L'onction d'huile est le symbole et le signe de notre consécration au Seigneur. Le malade doit accepter la promesse de Dieu comme vraie avant de pouvoir se sentir bien. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 6:56. Page 36. Chapitre 3. La guérison est-elle pour tous? Est-ce encore la volonté de Dieu, comme dans le passé, de guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris, et de remplir le nombre de leurs jours? Le plus grand obstacle à la foi de ceux qui recherchent la guérison de leur corps, de nos jours, est le manque de certitude dans leurs pensées, quant à la volonté de Dieu de guérir tous les malades. Presque tout le monde sait que Dieu guérit certaines personnes. Mais beaucoup d'enseignements de la théologie moderne empêchent les gens de savoir ce que la Bible enseigne pourtant clairement, à savoir que la guérison est pour tous. Il nous est impossible de revendiquer par la foi une bénédiction, si nous ne sommes pas certains que Dieu l'offre, parce que la puissance de Dieu ne peut être revendiquée que lorsque la volonté de Dieu est connue. Il serait pratiquement impossible à un pécheur de croire à son salut, si vous ne l'avez pas pleinement convaincu que c'est la volonté de Dieu de le sauver, lui personnellement. La foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Si c'était la volonté de Dieu de ne guérir que certains de ceux qui ont besoin de guérison, alors personne n'aurait de base suffisante pour sa foi, à moins de recevoir la révélation particulière que l'on est parmi les heureux élus. La foi ne doit s'appuyer que sur la volonté de Dieu, pas sur nos souhaits ou nos désirs. Avoir une foi vivante, c'est croire non pas que Dieu peut, mais qu'il veut. La plupart des gens aujourd'hui ne savent pas que la guérison est un privilège acquis pour tous par la rédemption. À cause de cela, lorsqu'ils cherchent à être guéris, ils ajoutent à leur prière cette phrase « si c'est ta volonté ». Il faut changer de théologie. Parmi tous ceux qui ont cherché la guérison auprès du Seigneur Jésus au cours de son ministère terrestre, il en est un qui avait besoin de changer de théologie. C'était le lépreux, qui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». La première chose que fit le Seigneur fut de corriger sa théologie, en lui disant « Je le veux, sois pur ». Le « je veux » de Christ a annulé le si du lépreux. Il avait la foi que Jésus pouvait le guérir. À présent, la parole de Jésus lui a permis de croire qu'il voulait le guérir. La théologie de ce lépreux, avant qu'il soit déclaré par le Seigneur, est celle qui est presque universellement admise aujourd'hui, parce que l'évangile de la guérison est si rarement et si partiellement prêché. En examinant toutes les Écritures de presque tous les angles possibles, nous voyons qu'il n'y a aucune autre doctrine qui soit plus clairement enseignée que celle-ci. C'est la volonté de Dieu de guérir tous ceux qui ont besoin d'être guéris, et de leur permettre d'accomplir le nombre de leurs années, selon sa promesse. Bien entendu, nous parlons de tous ceux qui ont été correctement enseignés et qui remplissent les conditions prescrites dans la parole de Dieu. Quelqu'un dira peut-être « Puisque la guérison est pour tous, alors pourquoi devrions-nous mourir ? Pourquoi pas ? La guérison divine ne va pas plus loin que la parole de Dieu. Il ne nous a pas promis que nous ne mourrions jamais, mais il a dit « J'éloignerai la maladie du milieu de toi, je remplirai le nombre de tes jours » Exode 23:25-26. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans Psaume 90:10. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ? Ecclésiaste 7:17. Comment donc Dieu veut-il qu'un homme meure ? Tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans la poussière. Psaume 189. Dieu a réservé à l'homme un certain nombre d'années de vie, et sa volonté est que l'homme aille jusqu'au bout de ses années. Rappelez-vous que ceux qu'il a ressuscités étaient des jeunes, qui n'avaient pas accompli toutes leurs années. Nous pouvons voir dans ce fait comme une révolte de Jésus devant la mort prématurée. Bien entendu, nous ne devons pas nous attendre à ce que les personnes âgées aient un corps de jeunes gens. Mais si le temps qui nous est dévolu n'a pas été épuisé, nous avons le droit de demander à Dieu qu'il nous donne la santé. Et même si ce temps est épuisé, et si c'est la volonté de Dieu que nous vivions encore un peu plus, le Seigneur veut aussi que nous finissions notre existence en bonne santé. Lisons le testament et sachons quel est son contenu. Si nous voulons savoir ce qu'il y a dans un testament, il nous faut le lire. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur n'importe quel sujet, il nous faut lire son testament. Supposons qu'une dame me dise « Mon mari était très riche. Il est mort. J'aimerais bien savoir s'il m'a laissé quelque chose dans son testament. » Je lui dirais « Pourquoi ne lisez-vous pas son testament pour le savoir ?» Le mot « testament » signifie, sur le plan juridique, les dernières volontés de quelqu'un. La Bible contient les dernières volontés de Dieu, son testament, dans lequel il nous fait héritier de toutes les bénédictions de la rédemption. Puisqu'il s'agit de ses dernières volontés, tout ce qui est venu après constitue un faux. Nous ne pourrons jamais écrire un nouveau testament après notre mort. Si la guérison est inscrite dans le testament de Dieu en notre faveur, dire que le temps des miracles est passé revient pratiquement à dire ce qui est le contraire de la vérité, à savoir qu'un testament n'est pas valide après la mort de son testateur. Non seulement Jésus est le testateur, qui est mort, mais il est ressuscité, et il est aussi le médiateur du testament. Il est, pour ainsi dire, notre avocat, et il ne nous exclura pas du testament, alors que certains avocats de ce monde peuvent faire déshériter quelqu'un. Il est notre représentant à la droite de Dieu. Pour répondre à la question posée, Il nous faut donc nous écarter de la tradition moderne, pour ne considérer que la parole de Dieu, qui est la révélation de sa volonté, son testament. Dans Exode 15, juste après le passage de la mer Rouge, qui représente notre rédemption, et qui a été écrit pour notre avertissement, Dieu donne sa première promesse de guérison. Cette promesse s'adressait à tous. Dieu énumère les conditions. Quand les conditions étaient réunies, nous lisons « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus » Psaume 105, 37 mot à mot « Il n'y eut aucune personne faible parmi ses tribus » C'est là que Dieu conclut avec eux une alliance de guérison, révélée et scellée par son premier nom rédempteur Yo-Rapha, traduit par « Je suis l'Éternel, qui te guérit ». Il s'agit de la parole de Dieu, établie dans les cieux, et d'une réalité immuable concernant Dieu, qui est autorisé à modifier la parole de Dieu. Dire que le privilège d'être en bonne santé n'est pas pour le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est changer le « Je suis de Dieu » en « J'étais Yo-Rapha » qui possède l'autorité de modifier les noms rédempteurs de Dieu. Jésus-Christ n'a pas abandonné son ministère de guérison. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. C'est à lui que s'applique ce premier nom rédempteur, tout comme les six autres. Nous avons déjà vu, dans le message précédent, que les bénédictions révélées par ces noms rédempteurs nous sont données au travers de l'expiation, lorsqu'il a goûté la mort pour tous. Ces bénédictions ne sont pas limitées aux Israélites. Ce passage d'Exode 15 nous montre au moins qu'à cette époque reculée, il y a 3500 ans, Dieu n'a pas laissé son peuple dans l'incertitude en ce qui concerne sa volonté de les guérir tous. Une nation sans malades. La nation d'Israël demeura tout entière dans un état de pleine santé, aussi longtemps que les conditions de Dieu furent remplies. Par la suite, 20 ans plus tard, nombre 16-46-50, lorsque la plaie fit périr 14 700 personnes, à cause du péché, il réunit à nouveau ses conditions, et la plaie s'arrêta. Dieu devint à nouveau Yo-Rapha, celui qui guérit, non pas pour certains seulement, mais pour tous. Il n'aurait pas été vrai de dire que la plaie s'arrête, si elle était demeurée sur un seul d'entre eux. Leur état de santé se poursuivit ensuite sans interruption pendant 19 ans, jusqu'à ce que le peuple, mécontent du chemin où le faisait passer le Seigneur, chemin qu'il avait choisi avec amour et miséricorde, se rebella contre Dieu et contre Moïse. Ils furent alors sous la malédiction des serpents brûlants. Lorsqu'ils réunirent à nouveau les conditions fixées par Dieu, en confessant leurs péchés, il leur donna sa parole, par l'intermédiaire de Moïse, et il est écrit « Quiconque aura été mordu, et le regardera le serpent d'airain, préfiguration du calvaire, conservera la vie ». À nouveau, nous voyons dans ce passage de l'Écriture que la volonté de Dieu était de guérir non pas certains, mais tous. Quiconque était mordu pouvait vivre en regardant le serpent d'airain, qui était une représentation typique du sacrifice que le Seigneur Jésus allait accomplir au calvaire en notre faveur. David, le psalmiste, avait compris en son temps que la guérison était un privilège réservé à tous. Il dit dans le psaume 4:26 « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent ». Nous verrons, dans le prochain message, que la guérison est l'une des plus belles manifestations de l'amour de Dieu tout au long des Écritures, et que les malades, dans le Nouveau Testament, demandaient à Jésus qu'il leur fasse miséricorde, lorsqu'ils recherchaient la guérison auprès de lui. Par conséquent, Jésus, selon cette promesse de l'Ancien Testament, a prouvé qu'il était plein d'amour en guérissant non pas certains de ceux qui venaient à lui, mais tous. Dans le psaume 103, nous voyons que David croit que le bienfait de la guérison est un privilège tout aussi universel que le bienfait du pardon. Il demande à son âme de bénir Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Un même mot est utilisé pour désigner ces deux bienfaits. Par conséquent, qui guérit toutes tes maladies est aussi permanent que qui pardonne toutes tes iniquités. Dans le psaume 91, Dieu dit à propos de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut « Je le rassasierai de longs jours ». Est-ce que le privilège de demeurer sous l'abri du Très-Haut est pour quelques-uns seulement, ou pour tous? S'il est pour tous, Dieu promet donc à tous de les rassasier de longs jours. Il faudrait que Dieu annule sa promesse, pour refuser de guérir l'un de ses enfants obéissant dans la force de l'âge. S'il était possible de demeurer sous l'abri du Très-Haut à une époque qui avait reçu moins de lumière que la nôtre, cela est certainement possible à notre époque de grâce, où Dieu peut faire abonder toute grâce en faveur de ses enfants. Les saints prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé concernant la grâce qui devait nous être accordée. Le calvaire répond à tous les besoins de l'homme. Nous avons déjà vu, dans le grand chapitre d'Ésaïe sur la rédemption, que Jésus s'est chargé de nos maladies comme de nos péchés. Le premier privilège est donc aussi universel que le second. Ce que Jésus a fait pour les individus qui venaient lui demander une bénédiction leur était personnel, mais ce qu'il a fait au calvaire est pour tous. Il est clair que, dans toutes les situations citées de l'Ancien Testament, c'était la volonté de Dieu de guérir tous ceux qui remplissaient les conditions. Chaque fois que le pardon était offert, la guérison était aussi offerte. Certains enseignent au peuple de Dieu qu'il a changé sa volonté en ce qui concerne la guérison. Je voudrais qu'ils répondent à cette question : serions-nous privés des bénédictions de l'Ancien Testament, nous qui sommes dans une meilleure dispensation ? Ne pouvons-nous pas nous attendre à ce que celui qui avait de meilleures choses en réserve pour nous, et qui est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, continue à nous accorder ces mêmes bénédictions, tout au long de cette meilleure dispensation ? Regardons ce que dit le Nouveau Testament. Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Le meilleur moyen de répondre à ces questions est de lire les Évangiles, qui racontent les enseignements et les œuvres de Christ. Il était l'expression de la volonté du Père. Sa vie a été à la fois une révélation et une manifestation de la volonté et de l'amour éternel de Dieu. Il a littéralement incarné la volonté de Dieu pour la race d'Adam. Il a dit « Je suis descendu du ciel, non pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Et encore le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit ses œuvres. Il a aussi dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Par conséquent, lorsqu'il guérissait les multitudes qui le pressaient, jour après jour, nous voyons le Père accomplir sa volonté. Lorsqu'il imposait les mains à chacun d'entre eux, et qu'il les guérissait, il accomplissait et révélait la volonté de Dieu pour notre corps. Personne n'est sans doute plus conservateur qu'un théologien de l'Église épiscopalienne. Pourtant, la commission réunie par cette Église pour étudier le sujet de la guérison divine a rédigé un rapport, après 3 années de recherche dans la Bible et dans l'histoire, dans lequel il est écrit « Les guérisons des malades par Jésus ont été accomplies comme une révélation de la volonté de Dieu pour l'homme. » Parce que cette commission avait découvert cette pleine révélation de la volonté de Dieu, elle ajoute « L'Église ne peut plus prier pour les malades en utilisant cette phrase mortelle pour la foi si c'est ta volonté. » Le message enseigné universellement dans les Évangiles est celui d'une entière guérison de l'âme et du corps, pour tous ceux qui viennent à lui. Beaucoup de gens disent aujourd'hui « Je crois en la guérison divine, mais je ne crois pas qu'elle soit pour tous. » Si la guérison n'est pas pour tous, comment pouvons-nous prier pour une seule personne, même si Dieu veut la guérir, tant que le Saint-Esprit ne nous révèle pas que nous prions pour la bonne personne ? Devons-nous nous laisser persuader par ces théologiens qu'il nous faut fermer nos Bibles et recevoir nos révélations directement du Saint-Esprit, parce que la volonté de Dieu ne pourrait pas être connue par les Écritures ? Ceci reviendrait à dire que presque tout ce que Dieu fait en matière de guérison dépendrait uniquement d'une révélation directe du Saint-Esprit, et non des Écritures. Comment les malades peuvent-ils donc être guéris, s'il n'y a aucune bonne nouvelle de guérison à leur annoncer, pour servir de fondement à leur foi ? Puisque la foi, c'est attendre que Dieu tienne ses promesses, comment peut-il y avoir la foi pour la guérison, s'il n'y a dans la Bible aucune promesse que le malade puisse s'approprier ? Les Écritures nous disent de quelle manière Dieu guérit les malades : il envoya sa parole et il les guérit, et il les fit échapper à la fosse. Psaume 107:20. C'est la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez, 1 Thèse 2:13, et c'est elle qui est la santé pour tout leur corps. Proverbe 82. Croire que Dieu peut guérir ne suffit pas à donner la foi. Si un milliardaire venait se présenter devant un auditoire d'1 millier de personnes, en disant qu'il a les moyens de donner 5 000 francs à chacune, Cela ne suffirait pas pour qu'une seule personne ait la foi que elle recevrait cette somme, parce que le fait de savoir que ce milliardaire peut payer ne suffit pas à donner la foi. Mais s'il allait plus loin, en disant « je veux donner 5000 francs à 50 personnes parmi vous », cela ne suffirait quand même pas pour qu'une seule personne dans l'auditoire ait la foi pour avoir cette somme. Si vous demandiez alors à quelqu'un s'il était pleinement convaincu de recevoir 5000 francs de ce milliardaire, il répondrait sans doute « j'ai besoin de cet argent, et j'espère bien être parmi les heureux élus, mais je ne peux pas être certain que j'en ferai partie ». Mais si ce milliardaire disait « c'est ma volonté de donner 5000 francs à chacun de vous », alors chaque personne dans l'auditoire aurait un terrain solide pour sa foi, et tous répondraient sans nul doute au milliardaire « merci, je prends mon argent même si vous supposez que Dieu ait des favoris, et qu'il ne veuille guérir que certains de ceux qui ont besoin d'être guéris ». Jetons un coup d'œil sur les évangiles, et voyons comment les amis des malades ont choisi ceux qui devaient être amenés à Jésus pour être guéris. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit, Luc 4:40. Dans ce passage, ceux qui n'étaient pas les favoris de Dieu, les malchanceux, à supposer qu'il y en ait eu, furent amenés, et furent tous guéris comme les autres. Il ne fait aucun doute que Dieu était en train de révéler et d'accomplir sa volonté. Si vous aviez été là en tant que malade, vous auriez été amené, et vous auriez été guéri avec les autres, parce qu'ils avaient amené tous les malades. Matthieu, dans son récit du même événement, dit pourquoi Jésus n'a fait aucune exception et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8:16-17. Le mot nos signifie tout le monde. C'est-à-dire que l'accomplissement de cette prophétie du sacrifice du calvaire exige que tous soient guéris. Jésus ne s'est pas contenté de guérir à cette seule occasion, mais à bien d'autres occasions depuis cette date, il a guéri les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. J'invite les malades à parcourir les évangiles et à noter le nombre de fois où le mot « tout » est employé. Et vous verrez que la bénédiction rédemptrice de la guérison était pour tous, et que nul n'a jamais fait appel en vain à Jésus pour être guéri. Il n'y a jamais eu de foule trop importante pour que Jésus veuille laisser malade ne serait-ce qu'une seule personne, et qu'il refuse de la guérir. Jésus a guéri toutes les maladies et tous les malades. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Matthieu 4 2325. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9 35-10-1. Remarquez ici que c'est parce que les foules venaient chercher la guérison qu'il a été nécessaire d'envoyer de nouveaux ouvriers dans sa moisson, pour prêcher et pour guérir. Il ne fallut pas attendre longtemps pour que 70 nouveaux disciples soient envoyés, et ils furent envoyés pour guérir et pour prêcher. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Matthieu 12-15. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 14-14. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14 34-36. Il descendit avec eux, et s'arrêta sur un plateau, où se trouvait une foule de ses disciples, et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre, et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Luc 6:17-19. Nous voyons donc, tout au long des évangiles, lorsque les malades étaient amenés à Jésus pour être guéris, qu'ils étaient tous amenés, y compris les malchanceux, à supposer qu'il y en ait eu. La tradition moderne prétend que c'est la volonté de Dieu que les malades supportent patiemment leur maladie, pour la gloire de Dieu. N'est-il donc pas étrange qu'il n'y en ait même pas eu un seul de cette catégorie, dans ces grandes multitudes qui étaient amenées à Jésus pour être guéris? En guérissant le jeune épileptique Marc 9:14-29, Jésus a prouvé que c'était la volonté de son Père de guérir même celui-ci, que ses disciples n'avaient pas pu guérir. Et pourtant, ils avaient reçu le pouvoir et l'ordre de chasser les démons. Nous voyons, dans ce passage, qu'il n'aurait pas été juste d'enseigner que Dieu ne voulait pas guérir ce malade, parce que les disciples n'avaient pas pu le guérir. Jésus, tout en guérissant le malade, leur a dit que leur échec ne prouvait rien d'autre que leur incrédulité. Pierre, après avoir passé 3 années à collaborer étroitement avec le Seigneur, décrit son ministère terrestre par cette courte déclaration: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes 10:38. Ainsi, dans toutes les citations ci-dessus, et dans bien d'autres passages de l'Écriture qui montrent que Jésus guérissait tous les malades, nous voyons révéler la volonté de Dieu pour notre corps, et nous trouvons la réponse à la question: la guérison est-elle pour tous? Les motivations principales de Jésus étaient son amour et sa compassion. On a enseigné à beaucoup de gens aujourd'hui que Christ a accompli des miracles pour démontrer sa puissance et pour prouver sa divinité. Ceci est peut-être vrai, mais ceci est loin d'être toute la vérité. Il n'aurait pas eu besoin de guérir tous les malades pour prouver cela. Un petit nombre de guérisons extraordinaires aurait suffi. Mais les Écritures montrent qu'il guérissait par compassion, et pour accomplir les prophéties. D'autres enseignent qu'il guérissait les malades pour se faire connaître, mais dans Matthieu 12:15-16, nous lisons: une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Certains, qui doivent bien admettre que Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui, prétendent que la prophétie d'Ésaïe disant qu'il a porté nos maladies ne concernait que son ministère terrestre, que cette manifestation universelle de compassion était spéciale, et non une révélation de la volonté éternelle de Dieu. Mais la Bible enseigne clairement qu'il n'a fait que commencer de faire et d'enseigner Actes 1 de tout ce qui devait non seulement être poursuivi, mais développé, après son ascension. Après que le Seigneur Jésus, pendant 3 ans, ait guéri tous ceux qui venaient à lui, il a dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Jean 16:7. Comment cela aurait-il pu être vrai si son départ avait dû amoindrir son ministère auprès des malades? Prévoyant l'incrédulité avec laquelle allait être reçue sa merveilleuse promesse, affirmant que nous pourrions faire les mêmes œuvres que lui, et de plus grande encore, après son ascension, il a commencé par cette expression: en vérité il dit dans Jean 14:12-18, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et comment devons-nous les faire? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En d'autres termes, nous devons faire ses œuvres en lui demandant de les faire. Il n'a pas dit des œuvres moindres, mais les œuvres que je fais, et de plus grandes encore. Pour moi, cette promesse venant des lèvres de Christ, est une parfaite réponse à tous les contradicteurs et à tous les livres et les articles qu'ils ont écrits contre la guérison divine. Quand Christ résista au diable, sa seule stratégie fut de dire: il est écrit. Puisque Christ a dit il est écrit, et que même le diable a dit il est écrit, pourquoi les prédicateurs ne peuvent-ils pas dire il est écrit? La sagesse de l'Église primitive. L'Église primitive prenait Christ à sa parole et priait à l'unisson pour des signes, des miracles et des guérisons, jusqu'à ce que le lieu où ils étaient assemblés tremble, Actes 4:31. Puis on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits et des couchettes. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Actes 5, 15-16. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, il était là, à la droite du Père, continuant à agir au travers de son corps, l'Église, selon sa promesse. Certains disent que c'était seulement pour le début du livre des Actes, dans le but de confirmer la parole des disciples qui annonçait la résurrection de Christ. Reportons-nous donc au dernier chapitre des Actes, et nous y lirons comment, 30 années plus tard, Paul, sur l'île de Malte, guérit le père de Publius. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. Actes 28-9. Nous voyons donc, à cette occasion, et jusque dans le dernier chapitre des Actes du Saint-Esprit, le seul livre inachevé du Nouveau Testament, que c'était toujours la volonté de Dieu de guérir tous les malades, et non pas certains seulement. Les Actes du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que Christ a envoyé comme son successeur et son officier ministériel, a pris la direction de l'Église, qui est le corps de Christ, et a démontré après la Pentecôte la même puissance de guérison que celle que Jésus avait démontrée avant la Pentecôte, et de grandes multitudes furent guéries. Dans les Actes, tout comme dans les Évangiles, nous ne voyons jamais personne demander une guérison et se l'avoir refusée. Les hommes ont appelé ce livre les Actes de l'Apôtre. Il faudrait lui donner un nom meilleur et plus vrai, celui de Actes du Saint-Esprit, parce qu'il raconte les Actes du Saint-Esprit au travers d'hommes qui n'étaient pas que les apôtres. Philippe et Étienne, qui n'étaient pas apôtres, furent utilisés d'une manière aussi glorieuse que Pierre et Jean. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner les bénédictions acquises pour nous par la rédemption de Christ, et promises par les 7 non-rédempteurs de Dieu. Le Seigneur n'a jamais cessé de s'intéresser à l'œuvre qu'il était venu accomplir. Si vous voulez savoir comment il agit aujourd'hui, lisez comment il agissait en ce moment-là. Le livre des Actes nous montre qu'il veut agir ainsi dans tous les temps, et jusqu'à la fin du monde. C'était le Saint-Esprit qui accomplissait les miracles de guérison par les mains de Christ. Jésus n'a jamais accompli un miracle sans que, en réponse à sa prière, le Saint-Esprit, auteur des miracles, ne viennent sur lui. Il pouvait alors, en s'appuyant pleinement sur le Saint-Esprit, chasser les démons et guérir les malades. Les miracles de Christ étaient tous accomplis par le Saint-Esprit pour annoncer d'avance sa propre dispensation, et avant qu'il entre lui-même officiellement dans ses fonctions actuelles. Pourquoi le Saint-Esprit, qui guérissait tous les malades avant que sa dispensation ne commence, ferait-il moins de choses après son entrée en fonction? L'auteur des miracles est-il donc entré en fonction pour ne plus faire de miracles, alors que nous sommes dans sa dispensation? L'Église actuelle peut être comparée à celle de Laodicée, qui était tiède. Les enseignements et les pratiques d'une telle Église sont-ils une meilleure expression de la volonté de Dieu, que les enseignements et les pratiques de l'Église primitive, qui était pleinement conduite par l'Esprit? Assurément non, je n'hésite pas à dire que la théologie moderne a dérobé au Saint-Esprit une partie de son ministère. Pour résumer à présent ce que nous avons dit jusqu'ici, nous dirons que nous sommes devant les divers aspects d'une révélation de la miséricorde présente de Christ envers nos maladies et nos infirmités, depuis qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Nous bénéficions aujourd'hui non pas seulement de l'attitude passée, mais de l'attitude présente de Christ envers la maladie et l'infirmité. C'est ce que nous allons développer dans les 14 points suivants. 1. L'attitude présente de Christ est pleinement révélée par son nom rédempteur de Yo-Hérapha. Ces noms rédempteurs ne peuvent pas changer. Tout le monde admet que ces 6 autres noms rédempteurs sont une révélation de l'attitude présente de Christ concernant les bénédictions révélées par chacun de ces noms. En vertu de quelle logique, par conséquent, pouvons-nous supposer qu'il aurait abandonné son ministère de guérison, tel qu'il est révélé par son nom de Yo-Hérapha? 2. Son attitude actuelle est également révélée pleinement par sa propre promesse formelle de continuer et de développer son ministère de guérison, en réponse à la prière des croyants, alors qu'il se trouve actuellement à la droite de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14 12 13 3. Son attitude présente est révélée par le fait qu'il a accompli cette promesse, ainsi que nous le voyons dans le livre des Actes. Même dans le dernier chapitre des Actes, 30 ans après l'ascension de Jésus, nous lisons là-dessus, « Vinrent les autres malades de l'île, et ils furent guéris. » Actes 28 9 4. Son attitude présente est révélée par le fait que la guérison fait partie de l'évangile que Christ a commandé de prêcher au monde entier, à toute nation, à toute créature, en tout temps, et jusqu'à la fin des temps. Cet ordre est suivi de la promesse suivante: ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. 5. Son attitude actuelle est révélée par le fait que l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus au calvaire s'étend à tous ceux qui ont vécu, qui vivent et qui vivront sur cette terre tout au long de la période où il sera à la droite du Père. Nous avons vu dans le message précédent qu'il est écrit dans le Lévitique que toute maladie était guérie en vertu d'une expiation. C'est pourquoi Matthieu nous dit que l'expiation accomplie par Christ est la raison pour laquelle il n'a fait aucune exception en guérissant les malades qui venaient à lui. 6. Son attitude présente est révélée par le commandement fait à tout malade dans l'Église, alors que Jésus se trouve à la droite du Père, de demander l'onction d'huile et la prière, avec la promesse que le Seigneur le relèvera. Jacques 5 14. Veut-il dire que nous devons prier avec foi ou sans foi? Comment pouvons-nous prier la prière de la foi s'il ne veut pas guérir? Nous commanderait-il de prier pour quelque chose qu'il ne voudrait pas faire? Dans ce même passage, même les laïcs doivent confesser leurs péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres, avec la même ferveur qu'Élie lorsqu'il a prié pour avoir la pluie. Jacques 5 16 18. 7. Son attitude actuelle est révélée par le fait que c'est après son ascension qu'il a accordé à l'Église des docteurs, des miracles, des dons de guérison, et ce sera, pour qu'elle continue à faire les mêmes œuvres, et même de plus grandes œuvres que lui, selon sa promesse. L'histoire rapporte la manifestation de ces dons miraculeux, depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours. La compassion éternelle de Jésus. 8. Son attitude présente envers la maladie est merveilleusement révélée par le fait que sa compassion n'a jamais changé, et qu'il ne l'a jamais retirée, depuis son ascension. Dans un message ultérieur, sur le thème de la compassion du Seigneur, nous verrons qu'au cours de son ministère terrestre, notre Seigneur était partout ému de compassion et guérissait tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Le mot grec traduit par miséricorde est aussi fréquemment traduit par compassion, car c'est le même mot. Lorsque les deux aveugles crièrent à Jésus pour qu'il ait pitié d'eux, il fut ému de compassion et il les guérit. Étant donné que la guérison du corps, dans le Nouveau Testament, est toujours un signe de miséricorde car c'est par miséricorde et par compassion que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui, Dieu n'est-il pas toujours plein de miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent? Notre glorieuse ère de l'Évangile ne permettrait-elle pas à ceux qui souffrent de bénéficier de la même compassion que ceux qui vivaient dans une époque plus enténébrée? L'absurdité de la théologie moderne. Nous vivons dans une ère de la grâce, qualifiée de meilleure que la précédente. N'est-il donc pas étrange que l'on puisse prendre une position revenant à dire que Christ, depuis son entrée dans la gloire, ne manifeste plus sa compassion envers les malades, ou qu'il l'a modifiée? Si Dieu ne voulait pas accorder la grâce de la guérison à ses adorateurs, alors qu'il accorde la grâce du pardon à ses ennemis, il serait donc plus disposé à faire grâce aux enfants du diable qu'à ses propres enfants. Ce n'est pas ce que disent les Écritures, qui affirment que les compassions du Seigneur s'étendent d'âge en âge non seulement sur les pécheurs, mais sur tous ceux qui le craignent. Car il aime ceux de ses enfants qui sont malades et qui souffrent, encore plus qu'il n'aime les pécheurs neufs. Son attitude présente est révélée par le fait que c'était dans l'année du jubilé que tout homme devait retourner dans sa propriété. Dans Luc 4, Jésus applique l'expression de l'année du jubilé, ou année de grâce, à l'ère de l'Évangile. De même que les bénédictions de l'année du jubilé étaient pour tout homme, ainsi, au cours de l'ère de l'Évangile, ces bénédictions sont pour toute créature. Ceci a été développé au cours du précédent message 10. Son attitude présente est aussi révélée par le fait que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi Galates 3:13. Nous signifie nous tous. Nous avons vu dans le message précédent que cette malédiction incluait toutes les maladies connues dans l'histoire. Comment Dieu pourrait-il nous justifier tout en exigeant que nous demeurions sous la malédiction dont il nous a rachetés? Un gage de notre rédemption totale. Son attitude actuelle est révélée par le fait que le Saint-Esprit, ainsi que son œuvre en nous, sont le gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, Éphésiens 1:14. Nous avons déjà souligné que notre destinée était à la fois spirituelle et corporelle, et que notre rédemption devait donc aussi être spirituelle et corporelle. Nous ne pourrons donc recevoir la plénitude de notre héritage qu'au prochain jour de notre rédemption. Mais, grâce soit rendue à Dieu, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous possédons dès à présent un gage de notre héritage. Paul nous dit que nous possédons les prémices de l'Esprit, et qu'il se manifeste à la fois dans notre esprit et notre corps. Ces prémices de l'Esprit comprennent le gage de notre immortalité, qui est un avant-goût de la résurrection. Puisque nos corps sont des membres de Christ, la vie de son corps glorifié passe dans notre corps physique, de même que la vie de son esprit passe dans notre esprit. C'est la même vie qui anime le cep et ses sarments. En Christ, le vrai cep, nous trouvons la vie à la fois pour notre esprit et pour notre corps. Ce n'est qu'en apportant à notre corps un peu de la vie qu'il doit nous donner à la résurrection, que le Saint-Esprit peut être le gage de notre héritage pour notre corps. Puisque notre héritage comporte un corps physique glorifié, quelles peuvent donc être les prémices de cet héritage? Grâce soit rendue à Dieu, la vie de Jésus peut être manifestée dans notre chair mortelle. La vie immortelle peut toucher nos corps mortels et nous donner un avant-goût de la rédemption de notre corps, pour nous permettre de finir notre course, et de recevoir une pleine rémunération. 12. La nature elle-même ne nous révèle-t-elle pas l'attitude présente de Christ en ce qui concerne la guérison de notre corps? La nature s'efforce toujours de guérir, du moins fait-elle de son mieux pour guérir. Dès que des germes de maladie entrent dans notre corps, la nature commence à les expulser. Qu'il y ait une fracture ou une coupure, la nature fera de son mieux pour la guérir, et réussira en général. Dieu aurait-il commandé à la nature de se rebeller contre sa volonté? Cela semblerait être le cas, si la maladie était la volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu se sert des maladies et des souffrances de notre corps. Si, comme certains le pensent, la maladie était la volonté de Dieu pour ses enfants fidèles, alors ce serait un péché pour eux de seulement désirer guérir, pour ne pas parler des milliers de francs dépensés pour s'opposer à la volonté de Dieu. Je remercie sincèrement Dieu pour l'aide que les médecins, les chirurgiens et les infirmiers peuvent apporter aux malades et à ceux qui souffrent, mais si la maladie était la volonté de Dieu, chaque médecin serait un hors-la-loi, chaque infirmière défierait le Tout-Puissant, et chaque hôpital serait une maison de rébellion, au lieu d'être une maison de miséricorde.